Bonsoir. Ça y est, on est sur la place Marcel Pagnol. J'aime beaucoup cette place. J'aime beaucoup l'intimité qu'elle offre. J'ai passé beaucoup de temps sur la place de l'Hôtel de Ville depuis le début du festival. Et là, je suis heureuse de me retrouver sur cette place Marcel Pagnol. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. C'est la dernière rencontre de la soirée. Le créneau 18h, la lumière décline. On a déjà beaucoup échangé depuis le début de la journée. Et on continue, on prolonge ce plaisir. En présence de nos deux invités. Bonsoir à toutes les deux. Carole Five, Maria Pourchet, merci de votre présence. Est-ce que c'est une première fois à Manosque pour toutes les deux ? Ou est-ce
oui,
que vous étiez venues ?
Pour moi, oui. Moi aussi.
Et bien voilà, comme quoi on a toujours de nouveaux invités chaque année, des auteurs qui découvrent le festival et des festivaliers qui découvrent de nouveaux auteurs. Nous avons une petite heure ensemble pour échanger autour de vos livres que nous allons faire entrer en correspondance, puisque... il paraît que c'est le sujet principal. Je vais vous présenter toutes les deux et puis on va naviguer dans vos pages. Vous serez bien sûr invités à prendre la parole à l'issue de la rencontre si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas à noter dans un coin quelques questions si vous avez envie de rebondir à l'issue de notre discussion. Maria, pour commencer par vous. Maria Pourchet, vous êtes née dans les Vosges. Vous êtes docteur en sciences sociales. Vous avez consacré votre thèse à la médiatisation télévisuelle des écrivains.
Oui, c'est vieux.
Un sacré sujet. Ça date de 2007, je crois, une grosse dizaine d'années. Ça s'intitulait « Face et envers des écrans de la littérature, archéologie d'un monde du discours ». Une thèse soutenue en 2007. Donc, vous avez un peu décortiqué les plateaux télé pour voir comment les écrivains...
C'est la première fois qu'on m'en parle.
C'est vrai ?
Oui.
Mais moi, ça m'intéressait beaucoup parce qu'évidemment, on est en plateau aujourd'hui sans télé, mais avec des écrivains. Donc, c'est quand même quelque chose de décortiqué. En quelques mots, en quoi consistait votre axe de recherche ?
Je ne m'attendais pas du tout à cette question. Plus qu'un axe de recherche, c'était une façon de tourner autour de l'objet qui me fascinait, à savoir les auteurs et les auteurs et les livres d'ailleurs. Et ça me fascinait jusqu'à l'intimidation, jusqu'à ne pas m'être inscrite en fac de lettres. Et quand je me suis retrouvée en sociaux, donc il fallait analyser des phénomènes sociaux ou médiatiques, c'est le chemin le plus court que j'ai retrouvé vers ma passion et le plus légitime dans une discipline qui n'est pas prévue pour s'intéresser aux lettres. Donc voilà, après la problématique, je serais bien incapable de la restituer aujourd'hui.
Mais comme toute thèse, quoi. C'est donc bien une thèse. Voilà, on est très très bien. Parce qu'effectivement, cette thèse, vous l'avez soutenue en 2007. Deux ans après, en 2009, vous avez co-réalisé un documentaire avec Bernard Farou, qui découlait sans doute de ces recherches-là. Ouais. Un documentaire qui s'intitule « Des écrivains sur un plateau ». Donc là, ça donne une vision un peu plus concrète de vos recherches. Vous avez enseigné la sociologie à l'Université de Nanterre et vous collaborez régulièrement à la revue Décapage. C'est toujours le cas ?
Oui, c'est toujours le cas. Voilà.
Très, très belle revue distribuée par Flammarion, éditée par Flammarion. Et vraiment, si vous avez la curiosité d'aller jeter un œil, ça vaut le détour. Votre premier roman avancé date de 2012. On suivit Rome en un jour et Champion. Moi, je trouve que vous avez quelque chose de très conquérant dans vos titres. Voilà. On avance, on est champion, on gagne Rome en un jour. Des titres qui ont été publiés aux éditions Gallimard, qui accueilleront votre prochain roman en janvier, qui est déjà quasiment prêt. Ça va s'intituler Les Impatients, sauf changement de dernière minute. Et aujourd'hui, donc, nous allons parcourir avec vous toutes les femmes sauf une. Alors, un texte dont vous ne sortirez pas pareil que vous, l'état dans lequel vous l'aurez abordé. Ça, c'est quand même assez incroyable comme lecture. Publié aux éditions Pauvert. Une première question, deuxième du coup, puisqu'il y en a une finalement avant ça. Pourquoi chez Pauvert ce texte-là, alors que l'ensemble de vos romans sont aux éditions Gallimard ?
Alors, il y a une rencontre à l'origine de ce livre. J'envisageais pas spécialement, j'étais bien chez Gallimard, j'envisageais pas spécialement d'aller publier ailleurs. Et il m'était arrivé de rencontrer d'autres éditeurs, mais des rencontres pas suffisamment percutantes pour avoir envie de leur promettre un texte. Et j'ai fait la rencontre d'une éditrice qui s'appelle Stéphanie Pollack. Qui s'occupait de la collection Pauvert, c'est-à-dire chez Fayard. Et voilà, on a parlé d'un premier texte que je n'ai jamais écrit, je ne l'ai pas écrit parce que je suis tombée enceinte, j'ai eu un enfant, ça a donné lieu à un choc que je relate pour partie dans ce livre. Et un jour où je déjeunais avec Stéphanie, elle me dit bon, on en a eu où de notre donc le livre qui n'a pas vu le jour, et je lui raconte les raisons pour lesquelles je serais incapable d'écrire le livre en question, et voire je serais peut-être à tout jamais incapable d'écrire. Et elle m'écoute et elle me dit bah voilà, c'est en tout cas ça, c'est le début d'un livre. Et je le croyais pas, et puis je suis rentrée chez moi, j'ai commencé ce livre là voilà.
Donc voilà, toutes les façons.
Après, il était impossible d'aller le faire lire chez Gallimard, puisque c'était...
C'était avec Stéphanie Pollack que ça avait commencé.
C'est ça.
Donc vous êtes allée au bout du projet. C'est un texte sauvage, sanglant, j'ai envie de dire, extrêmement violent, d'une énergie et d'une tension qui ne faiblit pas jusqu'à la fin du texte, qui est porté par une femme qui vient de mettre au monde une petite fille qui s'appelle Adèle. C'est sa première fille. Elle est à la maternité, pas très maternée par le personnel un peu débordé, mais pas toujours très agréable non plus. Elle s'adresse à sa fille, elle lui raconte son enfance, sa relation avec sa mère, et ce récit est entravé par des phrases humiliantes, blessantes, dont sa propre mère à elle l'a assommée. La narratrice tire des phrases comme des flèches pour tenter d'entraver cette mécanique, d'enrayer la mécanique qui fait que dans sa famille, de mère en fille et de mère en fille, on se maltraite, on se malmène, on se blesse souvent. Ce texte pour rompre un fil maudit avant qu'il ne s'enroule autour de la petite Adèle. Je dis ce texte parce que la narratrice écrit le livre que l'on est en train de lire. Ça sera le premier objet de notre discussion. Et on va mettre ce très beau texte en écho au texte de Carole Fives. Bonsoir Carole Fives et bienvenue. Bienvenue sur cette scène.
Merci, bonsoir.
Vous êtes née dans le Nord. Ça vous apprendra, aurait dit le personnage de la mère du livre de Maria Pourchet, si elle avait pu. C'est aussi évidemment un titre d'un essai que vous avez coécrit avec Amandine Day. Ça nous apprendra à naître dans le Nord. Ça fait quelque chose qui fait écho quand on habite à Manosque. Vous êtes diplômée, Carole, des Beaux-Arts de Paris, peintre, chroniqueuse d'art, portraitiste, pardon, vidéaste. Vous avez publié un recueil de nouvelles, « Quand nous serons heureux », aux éditions du Passage, c'était en 2010, qui a été récompensé par le prix Technicart. Le jury était précisé par Alain Maboncou, qui sera là demain avec nous.
Je viens d'apprendre qu'il y avait Stéphanie Pollack, justement, dans le jury.
C'est ça. Et Stéphanie Pollack était, elle aussi, dans le jury. Décidément, Stéphanie est partout. il a aussi reçu le prix Jeune Talent FNAC pour un début. C'était plutôt réussi. Une chanson de Lio vous a soufflé le titre de votre deuxième livre, Que nos vies aient l'air d'un film parfait, en 2012. Vous avez aussi écrit pour la jeunesse, à l'école des loisirs. Je mentionne deux titres. Est-ce que la maîtresse dort à l'école? Ça, c'est, je trouve, une grande question. Très, très grande question. Et un roman pour les ados, Modèle vivant, qui est paru en 2014. L'an dernier paraissait Une femme au téléphone. J'ai pu le trouver ici. Qui fera peut-être aussi quelques échos au livre de Maria Pourchet, tout comme donc votre tout dernier roman qu'on va explorer ce soir, Tenir jusqu'à l'aube, qui raconte le quotidien d'une femme, mère célibataire, d'un petit garçon qui a environ un an et demi ou deux ans. Elle vit à Lyon, c'est une solo, comme on l'appelle, je ne connaissais pas ce terme que vous utilisez. Un quotidien qui est tendu entre la solitude et l'isolement, les tête-à-tête avec son bébé, la difficulté de travailler, elle est graphiste pendant les heures de sommeil de son enfant, et les quelques espaces de liberté qu'elle s'accorde. J'insiste sur ce mot, parce que dans « s'accorde », il y a « corde ». On va parler donc de maternité, de relations fille-mère, de relations fils-mère, de la difficulté que peut apporter avec elle la maternité, de la douleur, du désenchantement. On est loin des clichés pastels, on est loin des layettes en rose et bleu, ce que le message soit très clair. Avant d'entrer dans vos textes, je voulais savoir si vous aviez lu, avant ou pendant l'écriture de vos romans, d'autres textes d'auteurs qui se sont penchés sur ces questions-là de maternité. Il y a quand même dans ces récentes années, une volonté de démystifier un peu démystifier un peu tout ça, de déconstruire les clichés et d'aller vers un peu plus de justesse, voire un peu plus de violence. Est-ce que des textes comme celui de Julie Bonny, Chambre 2, ou Amandine D, la femme brouillon, vous aviez travaillé avec elle, ou évidemment d'autres, hein, Marie Dariussecq et Le bébé, c'est un peu plus ancien, mais est-ce qu'il y a des textes comme ça qui ont compté pour vous ?
Pour commencer, oui, les trois textes dont vous parlez, je les ai lus, aimés. Celui de Dariussecq, effectivement, Le bébé, un texte très important. Bon, après, pour moi, ce n'est pas vraiment un texte sur la maternité que j'ai écrit, c'est plutôt un texte sur la liberté, le besoin de liberté des femmes aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a cette relation de monoparentalité d'une femme avec son petit enfant qui vit ça comme un étouffement. Mais je n'ai pas voulu faire un roman psychologique sur la maternité, mais vraiment faire un roman sociologique plutôt sur le désir de liberté des femmes aujourd'hui. Et sur un problème social qui est le problème pour les mères solo aujourd'hui. C'est plus ça que le problème. C'est pas un problème entre la mère et l'enfant.
Non, pas du tout. Ouais. C'est comment être, voilà, comment c'est... être mère et qu'est-ce que ça.
Enfin, que ça implique socialement aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'être mère dans la société d'aujourd'hui, sachant que le modèle monoparental concerne un foyer sur cinq, je crois, aujourd'hui.
Oui.
Donc c'est un modèle maintenant extrêmement répandu, principalement féminin.
Voilà, exactement.
Quelques pères aussi sont bien sûr concernés. Mais voilà, on est quand même dans des chiffres qui sont extrêmement importants. Maria, de votre côté, est-ce qu'il y a eu des lectures sur ces questions-là un peu périphériques ou qui peuvent de près ou de loin toucher aux vôtres ?
Pour partie, un peu la même réponse. Je n'ai pas le sentiment d'avoir écrit un texte sur la maternité, mais plutôt sur l'état de fille et sur la reproduction sociale telle qu'elle peut... parasiter la matriline qui fait que de mère en fille, on va se transmettre les mêmes conditionnements, les mêmes limites, les mêmes agressions, et que ça va essentiellement passer par le langage. Donc la maternité n'était pas... En plus, j'entretenais des liens compliqués avec ce phénomène-là qui me terrorisait. Donc non, j'ai jamais tellement cherché à lire des choses sur ce thème-là. J'ai lu Annie Ernaux, les textes d'Annie Ernaux sur sa mère. J'en ai certainement lu d'autres, mais les textes d'Annie Ernaux sur sa mère m'ont profondément marqué. Et je pense parfois qu'il y a même eu des résonances dans ce que j'ai écrit. Enfin, je peux le déchiffrer a posteriori. Mais sinon, non, je ne vois pas.
C'était Annie Ernaux avant tout. Tenir jusqu'à l'aube, Carole Fiv, ce titre vous a été soufflé par Alphonse Daudet et la chèvre de Monsieur Seguin. C'est une histoire qui est présente dans le roman, pas seulement à travers le titre. On assiste à une scène où la maman lit la chèvre de Monsieur Seguin, et puis il y a un des personnages qui porte ce nom de famille. Racontez-nous justement ce rapport à cette histoire de cette petite chèvre qui, elle, essaye de gagner sa liberté. Est-ce que c'est une idée qui est venue en cours d'écriture, ou est-ce que finalement tout est parti de là ?
Non, pas du tout. C'est venu en cours d'écriture, effectivement. Au début, je voulais vraiment parler d'une mère seule avec son enfant, qui n'arrivait plus simplement à être une travailleuse, à être aussi une femme, qui ne devenait juste qu'une mère de par sa monoparentalité, qui était un peu recluse dans son appartement et qui n'avait plus la possibilité d'avoir de pouvoir travailler comme elle le faisait avant, de gagner sa vie. Enfin, je voulais vraiment parler du déclassement des parents célibataires aujourd'hui. Et ensuite, effectivement, la narratrice lisait cette histoire à son fils le soir. Il y avait différentes histoires qu'elle lisait, et j'ai fait le parallèle rapidement entre cette histoire que je détestais, dont je voulais absolument pas parler, parce que je n'aime pas du tout cette histoire d'Alphonse Daudet, enfin ce conte, qui pour moi, j'ai toujours eu l'impression qu'il parlait des femmes quand il parlait d'une chèvre, et je voyais comme l'émancipation féminine se solde par la mort, donc c'était pas très... J'ai toujours eu une frayeur en lisant ce conte depuis que je suis toute petite, et ça m'a intéressé de le reprendre en cours d'écriture, et pour le détourner justement, et lui donner une fin bien moins moralisatrice et plus féministe en tout cas.
Du coup, l'exergue que vous avez choisi fait un petit clin d'œil à ce... Voilà, c'est une petite vengeance parce qu'il y a ce terme-là.
Les gens qui pensent que c'est un hommage à Daudet, pas du tout.
Hein. Voilà, je comprends mieux l'exergue que je vous lis. C'était, paraît-il, des chèvres indépendantes voulant à tout prix le grand air et la liberté. Quand on le lit avec le regard de Carole Fiv, on remplace chèvre par femme.
Ça
effectivement,
marche très bien,
ouais. ça marche très très bien aussi. Pourquoi ce titre, Tenir jusqu'à l'aube ? On parlait de tension dans le texte de Maria. Là, vous l'insufflez dès le titre là. À quel moment cette expression là est venue s'imposer comme titre de votre roman ?
Il y avait différents titres qui sont imposés, et puis finalement Tenir jusqu'à l'aube, ça parlait vraiment de cette fatigue qui s'accumulait chez cette femme qui est graphiste, freelance, qui travaille pendant les siestes de l'enfant, pendant les nuits de l'enfant, qui parce qu'elle n'est pas salariée n'a pas de place en crèche, donc qui passe 2 ans avec son enfant seul dans un appartement et qui ne peut travailler vraiment enfin voilà, que ses horaires de travail sont réduits à peau de chagrin, et donc elle s'épuise. Hein. Donc tenir jusqu'à l'aube, il y avait différentes choses. Il y a aussi après les fugues qu'elle fait la nuit dans la ville, où elle minute ses sorties. Donc ça parlait de différentes phases du roman. C'était le titre qui correspondait le plus à l'ensemble du roman. Il y a aussi la tenir jusqu'à l'aube. Il y a beaucoup de choses dans le roman qui renvoyaient à cette fatigue, aux nuits. Il y a encore d'autres dimensions. Enfin, ça explorait vraiment bien le roman. C'était pas juste un petit endroit. Puis effectivement, la chef de M. Seguin, avec cette phrase qu'elle dit quand elle se bat contre le loup, qu'elle attend de pouvoir faire mieux que la Renault de l'autre chef de M. Seguin, et de pouvoir faire mieux et de tenir jusqu'à l'aube comme elle. Voilà. Donc, c'était un titre qui convenait très bien à la narratrice. Hein.
Je vous le confirme, parce que c'est vraiment... On est d'emblée dans cette tension-là. Maria Pochet, de votre côté, « Toutes les femmes sauf une », un titre qui semble rompre ou qui dit stop ou qui, lui, coupe la corde comme on coupe le cordon. En tout cas, une idée de rupture. Est-ce que c'était vraiment cette idée-là que vous aviez envie de transmettre avec ce titre ?
Même plus qu'une idée, c'était un projet. Même moins qu'une idée, parce que c'est tellement un livre de colère qui est tellement organique que je ne suis même pas sûre qu'il y ait une quelconque mentalisation ou un raisonnement qui l'ait précédé. Mais oui, en tout cas, ça c'est la partie autobiographique du projet. Pour moi, la naissance de mon premier enfant a été le constat à quel point je résultais de, je disais tout à l'heure, de conditionnement d'inconscient de ma mère. Et je l'ai toujours su, j'ai toujours vérifié dans mes comportements, dans mes façons de parler. Mais en tout cas, du jour où j'ai un enfant, je le constate vraiment avec effroi. Et c'est pour ça que dans ce livre-là, la narratrice fait l'inventaire. Elle dit « Je suis le crime parfait du langage ». Et elle fait l'inventaire de toutes les agressions qui, en tout cas, passent par la parole, par les phrases que les femmes adressent aux femmes, particulièrement de mères en fille, mais pas seulement, les employeurs, les profs, pour les limiter, les conditionner, qui va de tiens-toi droite à tu prends du plomb dans la tête, à va pas croire que c'est facile, à tu peux mieux faire, et toutes les phrases relevant du tu peux mieux faire. Et donc la narratrice décide qu'elle sortira de la maternité quand elle aura fait l'inventaire de toutes ces phrases et de toute la violence symbolique qui va avec, pour quelque part dire à sa fille voilà exactement la langue que tu n'apprendras pas. Et sans savoir ce qu'elle va lui transmettre d'ailleurs. Et oui, en tout cas, il s'agit de casser la danse.
Je ne sais pas par où entrer dans ce bavardage qui n'a ni fin ni commencement, prononcé depuis toujours. Supposons qu'il ait un début. Regarde où tu mets les pieds. Ne réclame pas. Ne te fais pas remarquer. Tu la vois, celle-là ? Tu l'as pas volée. Ça t'apprendra. Quoi ? C'est pas des gens bien. T'avais qu'à travailler. Tu vas le payer. Garde tes distances, ne prends pas tes aises. Pour moi, c'est terminé. Je suis depuis trop longtemps déjà la somme de leurs phrases. Je suis au mieux la distance parcourue pour les fuir. J'ai assimilé. Je suis ce que ces phrases ordonnent. Je suis le crime parfait du langage. Reste à ta place. Reste pas dans mes jupes. Arrête de penser à toi. T'en veux une autre ? J'en oublie de ces mots qu'on écoute jusqu'à ce qu'ils vous terminent et ne laissent rien qu'une femme qui se tient. Qui doit, qui reste. Ainsi commence la langue que tu n'apprendras pas, je le jure. Si tu veux, tu peux. Ce n'est pas une histoire, mais il s'agit bien de littérature. La pire, les formules, la langue prête à dire, formée par tout le monde pour personne. Les phrases pour agir vite et profond. Les horreurs à parler d'un coup, celles qui dépassent la pensée, mais c'est faux. Celles qu'on pourra toujours dire qu'on regrette. Celles du bout de la langue de pute, qu'on n'a pas vu partir, pardon, mais qui est partie quand même. Celles qu'on répète parce que ça marche. Des phrases avec rien à répondre, surtout. Voilà un des premiers passages de lecture pour vous donner à entendre l'énergie du texte de Maria Pourchet. C'est sur une grosse centaine de pages dans cette énergie-là. Là, c'était pour faire écho à ce que vous veniez de dire, mais avant ça, il y a une exergue de Gérard Manset. Vous n'êtes pas sûr d'Alphonse Daudet. Il y a une route, tu la prends ou tu la coupes. Là aussi, une exergue qui est bien... Ouais. Bien tranchante, donc c'est pas le chemin des aiguilles ou le chemin des épingles, mais la route, tu la prends ou tu la coupes.
Ouais, c'est pour être une évangile, oui.
Pourquoi cette phrase-là de Gérard Manset ?
Parce que déjà, c'est un parolier, c'est un poète que j'aime beaucoup, que j'écoute beaucoup. Et cette phrase-là fait écho à toute la vie de toutes les femmes de ma lignée qui ont pris la même route, mais qui m'ont transmis les moyens d'identifier une espèce de rage et de révolte, d'identifier qu'on n'est pas obligé de la prendre, on peut effectivement la couper. Les chemins de traverse sont plus ou moins douloureux, plus ou moins faciles, mais et voilà, je trouve que cette phrase, en tout cas, si j'avais résume l'injonction que je pourrais donner à ma fille, moi j'ai eu un fils, mais si un jour je vais résumer, oui, si ma fille ne voulait pas lire ce livre, je lui ferais
lire cette phrase.
Voilà, il y a une route, tu la vois. Tu la prends ou tu la coupes.
Donc c'est, ouais. ça résume un peu en d'autres.
C'est à la fois un ordre, mais qui sous-entend une immense liberté aussi.
Oui, voilà. Il y a un choix à faire. Le choix du prénom que cette petite fille porte, donc évidemment, le choix d'un prénom, quand on met un enfant au monde, ça se pose. Mais quand on écrit un roman aussi, quand on écrit un texte aussi, elle s'appelle Adèle. Est-ce que... Il y a une idée derrière ce prénom. Est-ce qu'il est chargé de quelque chose? Est-ce qu'il est à peu près innocent? J'y crois pas trop.
Non, il est absolument pas innocent. Quand on écrit un texte comme ça, où il y a des adresses directes aux femmes de ma famille, aux femmes que j'ai rencontrées, que ce soit, je vous disais, prof, employeur, amis et fausses amies, il faut mettre beaucoup d'effets de fiction pour que ça passe. Et ça fait partie de l'effet de fiction, très relatif, parce que moi j'ai pas eu de fille, j'ai eu un fils qui s'appelle Abel. Et voilà, donc la fille s'appelle Adèle.
Parce que Adèle, il y avait Adam, une sorte de première femme, premier homme, Adam qui était pas très loin.
Bah, si c'est ça, c'est un subconscient alors.
Mais ça m'intéresse justement.
J'ai pas pensé.
Il y a l'initiale du A qui est la première lettre de l'alphabet, et il y a quand même une nouvelle histoire. Que vous voudriez que cette petite fille puisse écrire dans ce roman-là, donc l'initiale du A. Et puis il y a le ad latin qui est vert pour. Il y a une sorte de.
J'adore,
de
j'ai geste, pas tout pensé. C'est, j'ai
de
pas
geste
pensé,
de donner.
Et ben,
du
merci.
Coup, si ça vous convient, on peut le voir comme ça. C'était une sorte de don du texte à cette petite fille. Évidemment, des ailes, même s'il n'y en a qu'un, elle pourra voler aussi de ses propres ailes. En tout cas, pour moi, il était extrêmement fin, extrêmement judicieux, ce prénom.
Et, merci beaucoup.
Et à lui tout seul, il raconte déjà beaucoup de choses. On a évoqué ce point-là. La narratrice écrit un livre. Elle est dans l'écriture. Je vais vous lire ce passage-là, parce que c'est l'un des autres éléments qui donne l'impulsion au texte. Tandis que je t'écris, Adèle, les mères de nos mères couchées voudraient s'éteindre, enfin lâcher la rampe. Il y a bien longtemps qu'elles se sont tues aux premières questions. Partout, les enfants demandent, un jour ou l'autre, pourquoi ils marchent dans cette merde d'aussi loin qu'ils se souviennent. Quelle est la loi qui les condamne à rester, à picoler, à échouer? Cause toujours, elles avaient décidé, bien avant nous, qu'elles ne diraient rien. J'imagine à la place les secrets mornes des pauvres. Des gens trompés, des choses pas payées, des enfants cognés, perdus, des femmes laissées sur le carreau. Des histoires de terre et de ferraille, des arnaques à leur patience, des fils partis marquer l'histoire en Amérique, débarqués morts. J'ai voulu des détails, tu sais, mamie. J'écrirai des histoires. Mais que dalle. T'es bien comme ta mère, toujours à causer. Ça, pour critiquer. T'en poses des questions, t'as rien à faire. Alors on ne demande plus. On fait quelque chose, on fait partie du tableau. Toutes les femmes, sauf toi. Qu'est-ce qu'elle fout là encore, celle-là, à bailler aux corneilles? J'accouche. Ce livre blessera. Je l'ai retenu, j'ai serré les dents, j'avais les jetons, c'est passé, je n'ai plus peur, c'est différent, je n'ai pas le choix. Là aussi, ça arrive assez tôt dans le texte, ce passage qui est très très fort, et il y a cette dernière phrase, je n'avais pas le choix, comme si le texte déborde la narratrice et l'emporte avec elle dans son flot d'urgence. Est-ce qu'il y avait cette tension et ce mouvement? Est-ce que vous l'avez écrit vous aussi, auteur et non pas narratrice, dans un seul élan? Est-ce qu'il a été écrit rapidement?
Oui, je crois qu'il a été écrit rapidement. J'en ai un souvenir un peu trouble parce que j'étais dans un état. La colère et la fatigue qui constituaient le contexte dans lequel j'écrivais ce livre-là, que j'ai écrit. que j'ai commencé quelques mois après avoir eu mon premier enfant, fait que je me souviens pas de tout. Mais en tout cas, oui, c'était un impératif. Je n'aurais rien... Alors, je voulais écrire des autres livres. J'écris pour la télévision, pour le cinéma. J'avais plein de choses à écrire, mais je pouvais pas. Et j'avais commencé ce texte, je l'avais mis en stand-by, je disais à Stéphanie que ça viendrait plus tard. J'essayais de lutter, mais il était plus fort que moi, en fait. Il y avait quelque chose qui insistait pour être dit, presque comme si ça m'était dicté, et je ne pouvais absolument rien faire d'autre, parfois même pas dormir, tant que ça n'était pas écrit. Et donc là, je pense que la tension dont vous parlez, elle vient aussi de là. Parfois, il y a même une urgence à terminer, parce que il m'a fait mal. Tous mes précédents livres, j'ai ressenti une vraie joie, jusqu'à pleurer de bonheur parfois, d'être en train d'écrire. Mais alors celui-là, il a fait mal par où il est passé.
Il a fallu l'expulser.
C'est ça. Oui.
Dans votre roman aussi, Carole Fives, la narratrice écrit. Elle est graphiste, en tout cas elle a écrit. Il y a cette phrase, page 27. Elle est déjà allongée avec sa mauvaise conscience. Et sur la poitrine, un roman dont elle a oublié le début. Un roman commencé 100 fois et jamais terminé. Un roman dont elle-même a oublié le titre. Pardon, elle lit. Pas elle écrit, je me suis trompée dans mon terme. Elle lit et ce rapport à la lecture, qui, contrairement au flot qui nous emporte, est lui écrasé par le reste du quotidien. C'est-à-dire qu'on le commence, on s'y remet. Et en fait, le quotidien de la mère célibataire écrase tout le reste. Et il n'y a plus finalement cette place-là, qui serait un espace de liberté aussi.
Oui, les seuls espaces de liberté qu'elle va avoir, c'est les fugues la nuit et les virées qu'elle va faire sur Internet en recherchant en allant sur des forums et en entrant des mots-clés qui en apprennent sur son évolution au lecteur. Mais effectivement, la lecture, ça demande quand même de pas être trop fatigué, à moins que ça soit simplement un somnifère de plus. C'est vrai que pour lire vraiment, pour aller jusqu'au bout d'un roman, il faut quand même être attentif, être éveillé.
Être disponible pour ça, disponible. Et elle ne l'est pas. Et vous décrivez extrêmement bien ce quotidien-là, les jours qui s'enchaînent, cet enfermement dans lequel elle est, puisque elle ne peut pas travailler parce qu'elle n'a pas de place en crèche. Du coup, elle compte sur les heures de sommeil de son enfant. Évidemment, ça n'aboutit pas. Mais quand elle va demander une place en crèche, on lui dit « vous ne travaillez pas, donc vous n'avez pas de place en crèche ». Et elle est dans cette spirale dans laquelle beaucoup de mères sont enfermées, où travailler devient impossible. Et du coup, il faut absolument se dégager du temps. Est-ce qu'il y avait des mouvements comme ça, des schémas dans votre écriture, où vous cherchiez à atteindre l'enfermement, l'ennui, et à le créer par l'écriture, pour que ce soit vraiment perceptible physiquement par le lecteur?
Non, pas du tout. C'est pas parce qu'on écrit sur des choses ennuyeuses que ça doit être ennuyeux pour le lecteur, pas du tout. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé des trois pages que j'avais vraiment hésité à mettre parce que je pensais qu'elles étaient hyper ennuyeuses. C'est des pages de ménage, parce que je trouve que c'est hyper rare de voir ça en littérature. Et je voulais passer trois pages où on la voyait vraiment faire le ménage, les scènes domestiques. C'est un sujet qui n'est pas très noble, mais je voulais en faire quelque chose. Et c'est un passage qu'on cite souvent comme un passage les plus... des plus enivrants, mais en tout cas, parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on essaye de mettre aussi dans le roman. Il faut que tout ce qui fait nos vies, notre temps passé sur Internet, notre temps à laver, à ranger, à nettoyer, je voulais aussi que ça rentre dans le roman, parce que cette femme célibataire, eh ben, son quotidien est fait beaucoup de ça aussi. Et le tout, effectivement, c'est vraiment pas de rendre ça ennuyeux pour le lecteur, sinon on aurait tout perdu là.
Je me suis mal exprimée, c'est de faire sentir au lecteur. De renouer avec des souvenirs de ces journées-là, et ça vous l'atteignez très bien, c'est-à-dire qu'on s'ennuie absolument pas, on ressent l'ennui et l'enfermement de cette femme physiquement, et on se dit, mon Dieu, elle est dans cet enfermement-là. Je lis ce passage, effectivement il y a ces pages de ménage, mais il y a aussi ce passage qui se passe la nuit. Traverser l'appartement, il doit être 2 ou 3 heures du matin. Lolo, Lolo. Aucun courage pour résister à l'enfant et lui refuser un biberon en pleine nuit. Le couloir est sombre, à peine éclairé par la veilleuse de la petite chambre. Une forme massive, inquiétante, près de la porte. Un molosse, un monstre. La panthère en peluche de l'enfant. Ouvrir le frigo. Plus de lait. Les placards du bas. Attraper un pack. Découper le film plastique autour des briques de lait. Couper le coin de la brique. Verser le liquide dans le biberon. Transvaser dans une casserole. Allumer la plaque. Lolo, Lolo, ça arrive! Tremper le doigt dans le lait, 2-3 fois, jusqu'à ce qu'il soit tiède. Vider le contenu dans le biberon, en faire couler à côté, pester, et merde. saisir l'éponge sur le bord de l'évier, nettoyer le lait sur le meuble de cuisine, chercher le capuchon du biberon, le retrouver dans le lave-vaisselle, le visser sur le biberon, secouer, rejoindre la chambre de l'enfant. Il s'est rendormi. Elle repart avec le biberon et là, comme dans un film d'épouvante, l'enfant se redresse et hurle « Lolo, Lolo !» Elle se précipite et dans sa hâte, culbute sur la panthère dans le couloir, s'étale de tout son long, le liquide du biberon s'écoule goutte à goutte sur le plancher. Voilà cette scène-là où vous prenez le temps, mécaniquement, phrase après phrase, de décortiquer ces gestes-là qui sont des gestes quasiment mécaniques, puisqu'elle est dans un demi-sommeil et qu'elle répond à la pression de son enfant. Donc quand je dis ça, c'était vraiment pour faire sentir au public cette précision de la phrase pour nous faire entrer dans cet enfermement-là du quotidien.
Oui, tout à fait. Oui, oui. Il y a ces scènes de nuit qui alternent, qui sont pratiquement carcérales, de nuit ou des scènes quand elle va chez l'avocate ou quand elle va, effectivement, comme vous me disiez, chercher de l'aide à droite à gauche, des scènes du quotidien quand elle va au parc, au square, qui viennent en alternance avec les scènes de nuit où elle récupère un corps qui n'est plus le corps d'une mère, mais qui est le corps d'une marcheuse, d'une promeneuse, d'une femme au sens sensuel, mais simplement d'une femme qui récupère des sensations qui sont plus celui d'être comme elle est 24 sur 24 avec sa poussette, avec son enfant. Donc c'est un corps qui retrouve des sensations de liberté. Donc j'ai vraiment construit comme ça le jour, la nuit, et puis un peu comme un scénario pour montrer aussi une femme qui essaye de reprendre possession de son destin la nuit. Donc, c'est vraiment un espace de liberté qu'elle reprend sur son quotidien du jour.
Maria, de votre côté, on entend cet enfermement-là du côté de votre texte, on est plutôt sur l'ouverture des vannes que permet la naissance et dans son flot, dans son flux, la naissance de l'écriture. Est-ce que si cette mère avait mis au monde un petit garçon, l'ouverture et le flot auraient été le même? Est-ce qu'il était nécessaire pour cette narratrice, dans ce que vous aviez envie de raconter, que son bébé soit une fille?
Dans mon projet, oui. Parce que quelque part, le fait, moi, d'avoir eu un garçon, ça me laissait une sorte de répit pour continuer, finir d'étudier les conditionnements et l'éducation dont je résulte et ne pas la transmettre à ma fille, parce que ce dont je parle, c'est vraiment une transmission de mère en fille. Il y a certainement le même phénomène entre les pères et les fils, mais j'étais moins concernée. Et en tout cas, je m'étais dit ça devient peut-être un peu mystique, mais si je veux avoir une fille, ce que je veux d'ailleurs, si l'univers doit m'apporter une fille, il faut que j'aie le courage de faire ce travail-là avant, que quelque part je démine le terrain, parce que elle voudra pas venir. vu la gueule de la matriligne, elle voudra pas venir. et donc voilà, c'était ce projet-là qui est quelque part une sorte d'adresse aux anges qui précipitent les âmes sur terre, si elles existent. Donc oui, ça ne pouvait être qu'une fille. Et le roman que j'aurais pu écrire sur la naissance de mon fils aurait été très différent, beaucoup plus doux et aurait été pour le coup moins une histoire de colère, oui.
Oui, l'énergie aurait peut-être pas eu la même tension jusqu'au bout, en tout cas. Est-ce que, Carole Fipp, vous avez choisi de raconter cette histoire, ce roman donc de femme, de mère solo, de mère célibataire, à la troisième personne du singulier et pas au jeu? Est-ce qu'il y a eu hésitation au début de votre projet ou est-ce que d'emblée, vous avez su, très vite, compris que vous alliez parler d'elle à la troisième avec un L pour porter le texte?
Non, je voulais que ça soit un L et ça soit assez effectivement. J'ai essayé de faire de changer le jeu, le tu, comme on peut essayer de voir si ça fonctionne mieux pour les sorties de nuit ou pour voir ce qui fonctionnait de mieux. Et effectivement, non, le L marchait très bien. Et puis il a un côté un petit peu plus. Un espace de projection pour le lecteur. Du coup, je trouve que c'est plus ça marchait mieux pour ce texte-là en tout cas.
Ça renforce peut-être son isolement aussi, parce qu'elle est désignée comme la mère célibataire du sixième par ses voisins. Elle est aussi, elle se surprend, et ça vous l'écrivez page 25, elle se surprend souvent à parler d'elle à la troisième personne. Maman va faire ceci, maman doit faire cela. Elle est à la troisième personne tout le temps, et même elle-même s'exprime à la troisième personne. Comme si l'isolement était total, comme si... Est-ce qu'il y a une sorte de dédoublement de personnalité Est-ce que vous aviez envie de transmettre ça aussi?
Oui, parce que voilà, effectivement, du fait de sa situation, on ne l'aperçoit plus que comme une mère. Elle ne peut plus travailler, elle ne peut plus sortir, elle ne peut plus. Elle est plus en connexion avec sa vie d'avant. Elle est dans une ville en fait où elle se retrouve sans famille, sans amis, puisqu'elle a suivi le père de l'enfant pour resituer. Donc j'ai voulu vraiment la couper de tout système D, de tout voilà, placer cette mère célibataire dans une situation telle qu'on se rende bien compte que son problème n'est pas psychologique, c'est pas une mère célibataire qui a un problème avec son enfant personnel, mais pour laquelle c'est un problème vraiment structurel, pour laquelle la société n'est pas adaptée à ces nouveaux modes familiaux. C'est vraiment ce que je voulais essayer de montrer. Mm-hmm. Donc c'est pour ça que je l'ai vraiment isolée à ce point-là, et qu'on voit que s'il n'y a pas d'amis, s'il n'y a pas de famille, s'il n'y a pas de maman, s'il n'y a pas de sœur, s'il n'y a pas de copine, c'est impossible juste de travailler pour elle,
dans l'état actuel des choses. Elle n'a pas d'autre solution.
Oui, et... voilà, donc pour répondre à votre question, effectivement, elle était dans cette. Elle se coupe de sa propre personnalité et elle n'est plus qu'une mère, puisque la société l'a réduit à une mère, elle ne peut plus être que ça. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus gagner sa vie, elle ne peut plus sortir, avoir de rendez-vous de travail, elle ne peut plus. Elle-même finit par ne plus se percevoir. On lui dit, vous devriez effectivement prendre un appartement plus petit maintenant que vous êtes mère. Enfin, en gros, c'est maintenant que vous êtes mère, entre guillemets, célibataire, renoncer à beaucoup de choses et assumer. Mmh. Et donc, elle s'y perd elle-même et elle perd son identité antérieure, finalement. Voilà.
Oui, elle est réduite à l'état de maman.
Elle n'est plus qu'une mère. Comme si tous les aspects différents de sa personnalité étaient perdus, alors qu'elle n'a pas forcément choisi de se retrouver dans cette situation d'isolement.
Les
personnes ne se posent la question du père qui est parti. Donc, elle porte la charge seule. Effectivement, la société ne lui donne aucun secours à ce moment-là. Elle est réduite à cette situation de maternité exclusivement. Donc, elle-même finit par se...
Par se désigner comme ça.
Tout à fait, comme ça.
C'est sa nouvelle identité exclusive. Il y a un travail sur les pronoms aussi dans votre texte, Maria Pourchet, et notamment cet aspect que vous décrivez très bien de la maternité qui n'est pas toujours extrêmement chaleureuse et accueillante. Le personnel que vous décrivez est loin d'être rassurant ou dorlotant ou maternant. Le rapport avec les infirmières et le personnel est assez tendu. Et vous décrivez cette scène où c'était pour faire un petit écho à ce L, troisième personne, où l'infirmière rend visite à la maman dans sa chambre de maternité. Ici-bas, l'omelette hospitalière est froide. Je mange des amandes et des figues. Elle se sent mieux ? Elle n'a pas touché au plateau ? Donc, et ce L, où le personnel, là aussi, ne s'adresse pas du tout au tu et la première personne, mais on est dans quelque chose d'un peu dénaturé dans les relations. Là aussi, un isolement une dureté qui ne concerne pas seulement la filiation verticale de mère en fille, mais le personnel autour rejoint un peu cette violence-là. Et du coup, oui, il y avait ce travail sur le pronom. Par juste cette phrase-là, vous renforcez un peu la...
Alors ça, c'est des... Alors là, pour le coup, encore une fois, il n'y a pas vraiment de travail, puisque c'est vraiment des verbatims. Toutes les phrases en italique qui sont rapportées telles que, c'est des phrases qui m'ont été dites. C'est vrai que parmi les processus, enfin les modes d'infantilisation que l'on peut éprouver quand on est une jeune accouchée, enfin une accouchée, pardon, tout court, je ne suis plus si jeune que ça. Il y avait effectivement ça qui m'avait particulièrement frappée, c'est qu'on s'adressait à moi en disant « elle ». Et effectivement, quand j'ai lu dans le roman de Carole, on se surprend aussi à parler de soi à la troisième personne, cette distance qu'on prend avec le moi, qui est de l'ordre un peu de la dégradation, c'est qu'on se reconnaît plus pendant un certain temps comme personnalité, donc on dit bah oui, effectivement, maman va faire ça, maman elle est ci, maman elle pense que, ça commence là en fait. On me disait elle.
Et on prend le relais finalement, en tant que mère soi-même, de ce qu'on nous a insufflé. Vous avez cité ces phrases en italique, et c'est un des éléments typographiques très importants de votre ouvrage, puisque toutes les phrases rapportées, héritées donc de cette mère ou de ces grands-mères, parce que les générations ont aussi participé, elles sont dans le corps du texte, en italique, et elles apparaissent comme des flèches. Comme si elle se plantait dans la chair du texte et dans la chair, du coup, de la personne. L'italique, si vous regardez vraiment attentivement la phrase, les mots sont penchés en avant comme des béliers, d'ailleurs. Je pensais à la chèvre de M. Seguin qui donne des coups de tête, mais Il y a cette espèce de volonté de taper. Et comme si elles ne pouvaient pas être retirées, pas être retirées de la chair, elles sont plantées dedans comme un harpon et le mouvement arrière est impossible. Tout ça aussi, c'était extrêmement conscient de votre part, ou est-ce que d'emblée, pour simplement différencier dans votre roman les modes d'expression, vous avez choisi ce mode simple? Est-ce que vous avez vu sur la page que ça dessinait?
Non, effectivement, sur le plan typographique, je trouvais ça plus joli que les guillemets. Maintenant, vous l'écrivez comme ça me paraît évident. Mais le côté harpon, mais non, c'était pas
conscient.
Non,
c'était parce que ça fonctionne extrêmement bien et moi j'aime beaucoup quand évidemment la typographie soutient le propos. Parmi les refuges possibles de la narratrice, il y a la lecture. Je vous lis ce passage-là. Elle est sauvage, cette gosse. Je le suis. À 13 ans, je rencontre un être, roi du bois, qui sépare la maison du village. Tandis qu'on ne me cherche pas, je lis entre ses racines tout mot passant, qui inlassablement décrit une vie en Basse-Normandie. Inlassablement la mer qui charrie les corps de fiancés et des poissons imbouffables. Inlassablement la même fin. Les femmes s'ennuient jusqu'à mourir, avec ou sans enfants, dans des maisons comme des caveaux, des musées. Dehors, les hommes baisent les autres et comptent les sous. Je ne lis rien de plus plausible à cet âge. Je compte là-dessus, faute de mieux. Les femmes s'ennuient jusqu'à mourir, avec ou sans enfants, dans des maisons comme des caveaux. À 16 ans, je renonce à en finir, mais pas à l'inertie. Tu t'ennuies? Y a pas assez de livres? La forêt n'est pas assez grande? Je n'apprends rien. J'attends d'une attente à broder des licornes. J'attends comme on n'attend plus depuis des lustres, depuis le temps des emmurés de la terre plate. Il y a ce refuge de la lecture qui est présent là aussi. Cette enfant, elle a pu trouver un peu de réconfort et un peu d'humanité dans les pages. Vous le développez, ce thème-là, il est très présent. Est-ce que c'était une manière de contrebalancer, un peu d'équilibrer pour que le texte ne soit pas dans une seule direction, qui est celle de la violence ou de la lignée, mais qui est pour le lecteur aussi des petits moments d'apaisement?
Alors je dois dire que je n'ai jamais pensé au lecteur quand j'ai écrit c'est pas le cas de mes autres romans, mais quand j'ai écrit ce texte, je pensais vraiment à moi parce qu'il fallait que je m'en soulage. C'est simplement parce que donc il a une grande part autobiographique. Les phrases que je restitue témoignent en général d'un passé, d'un âge. Y a à chaque âge correspondent des types de phrases que j'ai souvent entendues. Dès lors qu'on parle de l'enfance et de l'adolescence, en tout cas, j'imagine chez beaucoup d'écrivains, mais en tout cas, c'est vraiment l'âge de la lecture, ou c'est en tout cas, c'est plus qu'un réconfort, c'est un royaume. C'est aussi naturel de parler de la maison. Enfin, c'est même plus naturel de parler des livres dans lesquels on habitait, au sein desquels on survivait, que de parler des gens. En tout cas, pour moi, c'était.
C'était présent dans ce sens-là.
Je parlais de toute ma vie à travers les lectures qui l'ont. Qui en ont été le navire, quelque part. C'est la plus grande constante, c'est ça.
C'est ce qui s'est imposé. Je parle de ce mouvement-là pour justement vous faire sentir qu'on est dans une tension, mais qu'effectivement, de temps en temps, il y a des niches que le texte nous offre, évidemment, qui ont fait sens pour vous, mais qui, du coup, pour le lecteur, génèrent un autre rythme. Carole Vif, pour vous, il est question de tension aussi, très forte. On a évoqué, je voudrais qu'on précise un peu ce mouvement-là, de cette femme qui tente de s'échapper un peu le soir. Donc, pour être plus précis, elle s'accorde une première échappée, la première fois pour simplement faire le tour du pâté de maison. Le bébé dort le soir, elle l'a couché, il est assez tard dans la nuit, elle s'accorde ces quelques minutes-là. Et puis, elle allonge ses sorties dans le temps et dans la géographie, elle va de plus en plus loin et elle tire un petit peu sur cette corde-là. Et de l'autre côté, l'enfant lui demande d'être à côté. C'est un terme qui revient très souvent. Je vais lire ce passage-là pour que vous puissiez l'entendre de manière plus concrète. Elle tenait la journée, elle tenait pour le petit. Mais quand la nuit s'annonçait, elle avait hâte de le voir endormi, de pouvoir enfin tout lâcher, les craintes, les colères retenues. Mais l'enfant n'en finissait pas de revenir. Tantôt il avait soif ou peur ou envie de faire pipi. Tantôt il voulait juste qu'elle reste là, à côté. Elle se recomposait aussi vite un visage de mère rassurante, donnait à sa voix des inflexions douces. Parfois, elle perdait patience. Elle aurait voulu qu'il se taise, qu'il arrête de la solliciter, qu'il lui fiche enfin la paix. Elle était lasse, fatiguée de cette créature qu'elle avait créée de toutes pièces, la bonne mère. C'était sans doute dans ces moments-là que l'envie de fuir était la plus forte, quand elle réalisait qu'elle ne supportait plus cet unique rôle où on la cantonnait désormais, dans un film dont elle avait manqué le début et qu'elle traversait en figurante. C'était alors que les fugues s'imposaient, comme une respiration, un entêtement. Est-ce qu'il y avait donc le fait de donner à entendre les mots du bébé à côté, est-ce que c'était pour justement accentuer ce mouvement vers l'extérieur ? Parce que lui cherche à la retenir en permanence.
Oui, bien sûr. Puis on sait que plus un enfant sent que son parent s'éloigne, et plus il est dans une sorte
de
manque. Effectivement. Donc c'est effectivement un mouvement entre deux. Enfin, c'est une situation aussi de couple, en fait, parent-enfant. Parce qu'à partir du moment où il n'y a pas de tiers séparateur, l'enfant et la mère forment une sorte de couple fusionnel. Qu'elle essaye de briser, elle, par ses fugues la nuit, et forcément en mettant son enfant en danger. Et l'enfant essaye de la retenir, donc on est vraiment dans quelque chose, vous voyez, de l'ordre du lien très très fort. Et ça, les fugues, effectivement, viennent contrebalancer de façon assez violente ce huis clos, en fait, dans lequel ils sont, ce petit enfer quotidien qu'ils partagent tous les deux.
Qu'est-ce qu'elle cherche dans ces fugues ? On comprend bien sûr de l'air, de la liberté, mais est-ce qu'elle cherche à se mettre en danger ? Est-ce qu'elle joue un peu avec ça ? Et pourquoi est-ce qu'elle a besoin de son téléphone portable comme alarme ? Est-ce que vous aviez envie de laisser entendre à votre lecteur que peut-être que sans l'alarme, elle aurait pu oublier de rentrer ?
Oui, bien sûr. Elle est dans un temps... le téléphone est la seule chose qui lui rappelle le fait qu'elle doit revenir, effectivement. Elle est dans un temps minuté, puis petit à petit, elle va effectivement s'en éloigner, et puis partir de plus en plus longtemps, comme vous disiez. Et le téléphone, c'est effectivement ce qui la retient. Et ces fugues qui vont la mener effectivement de plus en plus loin dans la nuit, mais aussi à rencontrer d'autres personnes, à se retrouver, en fait, à se redécouvrir comme corps délesté du quotidien, enfin, en tout cas des obligations qui sont les siennes en tant que mère, des charges, voilà, des servitudes du quotidien. Et donc c'est simplement une femme qui se promène la nuit et qui récupère son corps, qui récupère une démarche plus libre, plus fluide, et puis qui va s'enfoncer comme ça dans la nuit, et puis il va lui arriver effectivement des choses. Mais effectivement, c'est l'alternance comme ça entre ces scènes avec cet enfant et la nuit, ça a été construit effectivement comme ça.
Est-ce qu'il n'y a pas une recherche d'adrénaline aussi un peu, qui est une des manières de se sentir vivant, de se réveiller ?
Je crois que c'est plutôt une fuite en avant, vraiment. C'est une sorte d'échappée belle. C'est un espace de liberté. Voilà, j'ai voulu une métaphore du besoin de liberté dont ont besoin, en tout cas, ses mères célibataires ou ses parents célibataires, hein, parce qu'il y a des hommes aussi aujourd'hui. C'était simplement un moment où qu'elle prenait pour elle la nuit. Et effectivement, ça devient de plus en plus dangereux. Donc ça, ensuite, non. Après, bon, ouais.
Plutôt dans ce sens-là, dans ce mouvement-là. On évoque là cette tension l'enfant demande à sa mère de rester à côté. Elle, évidemment, cherche à s'en éloigner un peu pour respirer. Dans votre texte à vous, Maria Pourchet, on est dans un mouvement inverse, puisqu'il y a carrément un chapitre qui s'appelle « Fous-moi le camp ». Tu ne dis pas « chez moi », tu dis « chez mes parents », « chez ma mère ». Adèle, on n'est pas là pour juger. L'enfance de ma mère est une maison pleine comme un œuf. 7 enfants rivaux ventilés sur 3 pièces à se disputer l'air. Elle a dû rêver pour tenir du jour où dans ses quatre murs, elle serait retirée, unique. Elle ne supporte plus, ou pas longtemps, le voisinage d'une gamine. Que ce soit la sienne, ça change quoi ? Tu es chez moi. Je ne pourrais pas traîner ici. Je sais à 9 ans qu'on me fout dehors. Je suis déjà une paumée. Et quelques pages plus loin, vous retournez un peu la situation de manière presque comique. On est donc là à la maternité. Dans la chambre, je gare le berceau translucide, m'effondre comme je peux, détaille les taches au plafond, et le mauve, et le blanc, et la déco. Et... Personnel de santé, défendez vos droits. Et quand vous aurez 5 minutes, révisez les nôtres. Le téléphone vibre bêtement, comme si j'étais encore du monde où l'on décroche. On m'annonce une visite. Manquerait plus que ça. Un fasciné avec une 50e grenouillère sous-taillée me dira que c'est merveilleux. Foutez-moi ça dehors. Petit balancement de l'un à l'autre avec ce fouté dehors. Et on est effectivement dans ce mouvement-là avec cette narratrice dans le trop-plein, le ras-le-bol et du coup toute incursion extérieure, comme elle est dans ce flot-là qui va vers l'avant, tout ce qui va en intrusion est impossible à recevoir, si j'ai bien compris son personnage et sa position.
Oui, en tout cas à ce moment-là, il s'agit tellement d'aller au fond de ce qu'elle éprouve et de se laisser fracassée par la douleur, la fatigue, le choc, pour voir ce qui en résulte, que oui, elle ne veut pas de visite, ouais.
On devrait peut-être même interdire les visites à la maternité, vous en pensez quoi?
Non.
Si, j'aimerais bien.
Il y a certaines qui sont nécessaires, mais on devrait les limiter, oui, en tout cas.
Les limiter, ça peut être en tout cas épuisant, et parfois, certaines sont carrément des cauchemars. Pour aller un tout petit peu plus loin, et on va bientôt finir parce que l'heure tourne, on a évoqué rapidement, pardon, je cherche avec les mains pleines ce passage-là, évoqué un autre espace de liberté, Carole, et une autre manière de s'évader pour cette mère qui est coincée chez elle, enfermée. Ce sont les forums que vous avez évoqués, qu'elle trouve sur Internet, donc ces forums d'échange de mères célibataires qui se retrouvent pour donner leur point de vue. Je vous en lis juste un tout petit passage pour vous entendre ensuite sur ces pages de forum que vous avez retranscrites ou imaginées. Sur sa page internet, elle écrit « Laisser bébé seul plus sortir ». Clique sur une discussion ouverte par Titouette. Titouette. « Voilà, je suis sportive de haut niveau, j'ai fait de la compétition pendant 10 ans, mais depuis la naissance de bébé 2, je n'arrive plus à rien. Même courir ou juste aller en salle, je ne trouve plus le temps. Résultat, j'ai pris 10 kilos. Je suis en congé parental, donc 100% à la maison avec deux loulous. Je pourrais aller courir le soir quand mon homme rentre du boulot, mais il faut dire qu'à 20h, j'ai zéro courage pour ressortir. La petite fait encore de très longues siestes et son frère va à la crèche. Du coup, je me disais que je pourrais peut-être profiter des siestes pour aller faire mon jogging. 15 ou 20 minutes max. Elle n'a que 5 mois, elle dort comme une bûche, minimum 1h30, 2h, aucun risque qu'elle se réveille. Est-ce que vous l'avez déjà fait pour aller faire une course ou autre chose? Voilà les questions de ces mères célibataires qui se posent... ce problème-là de est-ce qu'on peut sortir quand le bébé dort. J'ai entendu que vous aviez cherché des faits divers sur ces questions-là, de voir si certaines mères avaient du coup généré un danger réel en faisant ces petites courses ou un peu plus long. Vous n'avez rien trouvé à l'époque. Il se trouve que récemment, et l'actualité est toute fraîche, un père a laissé son enfant tout seul chez lui et Mamadou...
La sauver, oui.
Oui, c'est ça. J'ai plus le nom de famille en tête. Mamadou Gassouma, je vais mal le prononcer, a franchi donc tous les balcons pour aller récupérer son bébé. Le père a été jugé ce mercredi-là. Mais à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Du coup, ces mères-là, vous les mettez quand même en question pour vous dire cette question-là est partagée et cette volonté-là est quand même, fait partie de forums de discussion sur Internet.
Oui, je crois que tous les parents, solo ou pas, à un moment donné, se posent la question de ce qu'ils peuvent faire. C'est vrai que quand on a un enfant, dans tous les cas, on sait très bien que c'est un frein à sa liberté pendant quelques temps en tout cas. Et tous les enfants, tous les parents en couple ou pas, pardon, se posent la question de pouvoir savoir s'ils peuvent sortir à un moment donné, juste aller à la boîte aux lettres, descendre les poubelles, enfin ce genre de questions de distance. Et c'est vrai que le fait divers dont vous parlez, je pense qu'une mère n'aurait jamais fait ça. Parce que c'est vrai que j'ai cherché beaucoup de... Parce qu'il y a quand même énormément de mères célibataires en France. Enfin, c'est quand même un parent sur 5. Et j'ai cherché des faits divers, mais pendant des mois, il n'y a vraiment rien. Donc elles sont irréprochables, ces mères. C'est vrai qu'il faut quand même leur rendre hommage. Et sauf deux petites choses, mais vraiment, c'est parce que j'ai fouillé pendant des petites choses qui avaient attrait toutes à l'abandon très ponctuel d'enfants. Une soirée, elle laisse ses enfants au McDonald's pendant qu'elle va se promener ou qu'elle va au cinéma. Donc, et là, effectivement, on voit les commentaires en dessous du fait divers, toute la meute lui tombe dessus. Et une autre femme, bon, là, c'était cet été ou l'été d'avant, qui retourne au Maroc une semaine et qui laisse ses trois enfants dans l'appartement avec de quoi manger, quand même. Donc, voilà. Précaution. Et toutes les petites choses que j'ai trouvées, enfin, c'était les deux choses, seules choses que j'ai trouvées, avaient attrait à l'abandon. Au fait de laisser son enfant seul. Donc là, c'est plus la chef de M. Seguin, c'est le petit poussé. Et c'est vrai que je me suis dit qu'il y avait toujours ça quand on avait un enfant, cette idée de, à un moment donné, j'ai un peu besoin aussi de me retrouver, comment est-ce que je peux reprendre cet espace. Et tout parent se pose cette question de ce que je laisse mon enfant un petit peu. Enfin voilà. Et c'était cette question qui se posait vraiment. Et donc je suis partie de cette notion-là pour construire l'histoire et la fiction autour de cette mère qui s'éloigne, qui cherche à trouver en fait la bonne distance avec son enfant puisque elle ne la trouve pas dans la vie de tous les jours et qui la teste de façon très dangereuse.
Les pages de ces forums que vous, il y en a à plusieurs reprises hein, que vous retranscrivez, est-ce qu'elles ne renforcent pas son enfermement ou son isolement? Est-ce que ce sont vraiment des lieux d'échapper ou est-ce que ça ne renvoie pas à son enfermement encore une fois?
Oui. Effectivement, c'est forum hein, en latin, ça veut dire place publique. Donc c'est vraiment un endroit aussi de surveillance sociale où les gens entre eux se regardent agir et se jugent beaucoup. Et sur ces forums qui sont dédiés aux mères célibataires, aux solos, comme on dit aujourd'hui, effectivement, les femmes racontent leurs petits problèmes ou leurs gros problèmes pour s'occuper de leurs enfants en solo. Et donc, y a des conseils qui sont donnés, prodigués. On est vraiment dans l'ordre du système D, de la débrouille, de l'astuce, du comment faire. Et cette mère qui ose poser ses petits problèmes, lui dire que ça ne va pas du tout avec son fils, qu'elle n'en peut plus, qu'elle ne veut pas travailler, qu'elle est en train de sombrer. On lui parle de problèmes d'organisation, simplement. Si elle ne s'en sort pas, c'est parce qu'elle n'est pas assez organisée, c'est parce qu'elle n'est pas assez comme ceci, pas assez comme cela. Alors qu'encore une fois, son problème, c'est vraiment pas un manque d'organisation, c'est un problème qui concerne la société plus largement pour les mères célibataires et les parents célibataires aujourd'hui. C'est un problème qui est beaucoup plus large que ça, je pense. C'est pas un problème d'organisation. Donc à chaque fois qu'on lui... Et quand des mères osent se plaindre de façon vraiment bien pire qu'elle et dire « Bon voilà, moi je n'en peux plus, j'ai élevé mes trois enfants pendant 15 ans, là, que les pères prennent enfin leurs responsabilités. Moi cet été, c'est décidé, je pars, je mets les bouts, je mets les voiles, je m'en vais, je lâche l'affaire. Il y a une meute tout de suite. Alors on ne sait pas si c'est des hommes, si c'est des femmes, parce qu'ils sont tous derrière pseudo, mais c'est des magic mums ou c'est des lulubluettes, enfin des pseudos comme ça improbables qui lui tombent dessus en disant mais non, voyons, mère indigne, salope, oui, enfin, ça va hyper loin, que... tu es mère, tu dois assumer, à l'ère de la pilule, quelle honte. Donc il y a une espèce de pression sociale comme ça, qui vient autant des hommes que des femmes, hein, qui est assez violente. On passe vraiment du conseil sympathique en quelques minutes à quelque chose de hyper violent, qui moi m'a fascinée justement sur ces forums. Voilà.
C'est la violence faite aux femmes aussi, entre femmes, puisqu'elles sont principalement féminines.
Oui, voilà.
Et du coup, c'est une sorte de les femmes entre elles ne sont finalement pas très tendres.
Oui, non, je ne pense pas que c'est une histoire de femmes entre elles. C'est une histoire aussi de c'est un domaine qui a été celui des femmes pendant des millénaires. Et aujourd'hui, elles ont aussi beaucoup de... On le voit aussi hein, dans les changements législatifs par rapport au droit de garde et tout. Les femmes ont vraiment du mal aussi à lâcher le terrain de la parentalité, puisque ça a été un des uniques terrains qu'elles ont pu occuper pendant des siècles.
Et c'est resté ancré.
Voilà, et c'est resté ancré. Les mères aussi ont du mal à lâcher cette idée de la toute puissance maternelle, en fait. Donc c'est tout à fait légitime. On est vraiment en pleine période de changement, et c'est ça que j'ai trouvé fascinant à explorer dans le roman.
Je rebondis sur ce terme des choses qui s'ancrent comme ça, qu'on finisse par devenir, par nous constituer, pour finir sur le travail de Maria Pourchet, c'est ce qui se passe avec ces phrases qui sont toxiques, qui sont nocives, qui détruisent, finalement sont les phrases sur lesquelles la narratrice, la fille se construit paradoxalement. Je vous ai lu un passage tout à l'heure qui commençait par « Elle est sauvage cette gosse », un tout petit peu plus loin vous faites là aussi un autre contre-pied, « Elle est sauvage, elle est sauvage ». À force de dressage, de dresseur, à force de forêt pour les fuir, je redeviens sauvage. Je suis un loup. Quoi que j'apprenne des vêtements, du langage, des manières des hommes, des manières des femmes, quoi que j'essaie, quoi que je mime de ce qu'ils font ensemble, la part sauvage résiste. Une forme de réponse très habile dans votre texte entre les phrases flèches et ce que la narratrice finalement en fait, comme une sorte de vengeance. Est-ce qu'il y avait ces contrepoints conscients d'une phrase qui est là et qu'il faut que je réutilise un peu plus tard ou que je faut, en tout cas que je réutilise pour en faire autre chose?
Parfois oui, parfois non. En tout cas, celui dont vous parlez, oui, parce que je l'ai tellement... je et la narratrice, faisant la plupart du temps un seul, je l'ai beaucoup entendu eu les procès en sauvagerie. J'ai longtemps perçu ça comme négatif, avant d'admettre que finalement la sauvagerie était peut-être la barre la plus lumineuse que pouvait conserver une femme. En tout cas, c'était celle qu'il fallait défendre. Et puisque c'était celle qui était tue par l'éducation, par toutes les injonctions. En tout cas, oui, dans ce chapitre-là, oui, la narratrice est heureuse de dire que... Enfin, c'est très bien parce que la part sauvage a résisté, elle l'a sauvée, et c'est ce qui la sauve aujourd'hui.
C'est ce qui la tient debout. Et ça nous fait un petit loup dans les pages qui fait un clin d'œil à la chèvre de M. Seguin. L'heure a tourné, peut-être que vous avez envie de réagir à l'échange que nous avons eu ou de poser d'autres questions. Si vous le souhaitez, un micro est à votre disposition. On peut le faire circuler. Il suffit d'agiter les bras. Mais si personne n'a de questions, je finis sur ces quelques lignes tirées du livre de Maria Pourchet. Adèle, ne participe pas à ta propre oppression. Je ne t'apprendrai rien de plus entier. Et si un jour l'oppression c'est moi, va-t'en. Je suis restée moi trop longtemps auprès des femmes faibles. Il me reste quoi ? Un petit livre à leur envoyer dans la gueule, au temps où la littérature n'a plus d'estomac. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Maria Pourchet, Toutes les femmes sauf une. Carole Fives, Tenir jusqu'à l'aube. Les deux auteurs sont à votre disposition si vous voulez faire signer les ouvrages ou échanger avec elles. Merci de votre attention. Bonne soirée.
Merci.